Europa Voice numéro 68, et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
68 déjà, c'est quand même beau.
c'est un beau nombre, 68.
C'est un beau nombre, absolument. Alors, on va parler donc de pas mal de choses, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'épisode d'Europa Voice, et le Brexit, eh bien, je serais tenté de dire, est-ce que ça a réellement bougé depuis notre dernier épisode, depuis l'épisode 67? Il y a des choses qui bougent, mais la situation ne s'éclaircit pas forcément.
Alors effectivement, Christophe, le Brexit, c'est une running story. Il y a deux éléments.
C'est la Madeleine de Proust, hein. C'est la Madeleine de Proust.
C'est la Madeleine de Proust de cette Europa Voice. C'est votre chouchou. Il y a quelque chose qui est sûr, qui est fixé ça depuis le début de l'année en cours, depuis le 1er février 2020, c'est que le 1er février, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Ça a été acté. C'est fait. Maintenant, la question, c'est pourquoi malgré cette sortie de l'Union européenne le 1er février 2020, pourquoi est-ce que le Brexit, ce n'est toujours pas fini? Pourquoi ce n'est toujours pas de l'histoire passée? Et en fait, à ça, il y a plusieurs raisons. Alors, la première raison, Christophe, c'est que d'abord, en fait, les négociations elles-mêmes, elles ne sont pas finies. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, elles ne sont pas finies. Pour la simple et bonne raison, Christophe, et on l'avait mentionné plusieurs fois avec nos auditeurs d'Europa Voice, c'est que 2020 est une année de transition. C'est-à-dire que le texte qui a été négocié entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a prévu jusqu'au 31 décembre 2020 qu'il y ait une année de transition qui permette de fixer les dernières modalités entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc c'est déjà le premier élément qui paraît finalement assez étrange, c'est que effectivement le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne depuis février, mais on est toujours dans cette année de transition qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes et qui peuvent changer le cours de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Ouais, est-ce qu'on peut déjà analyser aujourd'hui si, enfin un petit aparté, mais l'épidémie ou la pandémie de coronavirus, est-ce qu'on sait si ça a créé des problèmes ou pas? Est-ce que ça a retardé un peu le processus ou est-ce que c'est un peu la bonne excuse?
Alors, je dirais, Christophe, que la pandémie, mais comme dans d'autres domaines, comme dans d'autres relations entre États, comme dans d'autres mouvements politiques ou comme dans d'autres décisions qui devaient être prises, ça n'a pas modifié, si vous voulez, ce qui s'était passé. Ça a seulement retardé ou ça a seulement mis entre parenthèses pendant quelques semaines ce qui devait se passer. Et c'est le cas pour le Brexit, hein, Christophe, au moment du pic de la pandémie en avril-mai. C'est vrai que à ce moment-là, les négociations, elles ont mis plus de temps qu'elles ne devaient prendre. Les rencontres de fait, elles ont été certaines ont été ajournées, les réunions ont dû se faire par Zoom. Donc, mais si vous voulez, ça n'a pas changé le cours du Brexit. Et d'ailleurs, les règles, et peut-être qu'on va revenir sur ces règles, jusqu'à la fin de l'année de transition, elles n'ont pas changé. Les règles, elles sont très simples pour le Royaume-Uni, Christophe. La première, c'est que pendant cette année de transition, hein, et Brexit ou pas Brexit, le Royaume-Uni continue d'appliquer les règles européennes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais continue quand même d'appliquer les règles. La deuxième chose, Christophe, qui n'a pas bougé malgré le Brexit, c'est que le Royaume-Uni continue à participer au budget pluriannuel de l'Union européenne et donc aussi de bénéficier des fonds européens. Fonds européens pour lesquels on va reparler dans quelques instants, notamment par rapport à l'état de droit en Pologne et Hongrie, mais j'en dis pas plus. Et puis la troisième règle, Christophe, c'est que la troisième règle, pardon, c'est que le Royaume-Uni ne participe, ne siège plus, si vous voulez, au sein des institutions communautaires. Il appartient toujours, il continue d'appliquer les règles de l'Union européenne, mais comme il va quitter le navire dans pas longtemps, on n'a pas envie qu'il puisse prendre parti à certaines décisions qui auront des impacts une fois qu'il sera sorti de l'Union européenne. Donc vous le voyez, en fait, toutes ces règles-là, elles avaient été définies au moment de la signature de l'accord, le 1er en février 2020. Mais le Brexit, ça ne les a pas changés. Ces règles-là, elles continuent de s'appliquer et elles vont continuer de s'appliquer pendant l'entièreté de cette période de transition. Période de transition, Christophe, qui pourrait être prolongée. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on pourrait encore avoir une année de période de transition. Et ça répond un peu à votre question. Est-ce que finalement, avec le Brexit, les deux acteurs n'ont pas envie d'utiliser ce joker et cette prolongation d'un an de l'année de transition, mais le Premier ministre britannique, comme vous le savez, Boris Johnson, a déjà dit qu'il ne souhaitait pas allonger cette période de transition, et le Brexit n'y a rien fait, elle s'arrêtera cette période de transition à la fin de l'année 2020.
Est-ce qu'on sait est-ce qu'on peut juger plutôt l'état des relations? Est-ce que c'est plutôt, on va pas dire que c'est au beau fixe, mais est-ce qu'il y a quand même un accord sur le fait que on est, voilà, si c'était une relation Facebook, on en serait où, quoi?
On en serait, Christophe, it's very complicated. ouais. c'est une relation, j'allais dire, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que malgré le fait que les deux acteurs aient trouvé, ou en tout cas semblent avoir trouvé un terrain d'entente hein, avec cette ratification, enfin cet accord, si vous voulez, qui a été ratifié en février 2020, bah malgré ça, on a l'impression que la relation, elle s'est détériorée depuis février. Alors, elle s'est détériorée pour plusieurs raisons, Christophe. D'abord, c'est vrai, ce mois de septembre, Boris Johnson a mis une pression incroyable sur l'Union européenne pour conclure extrêmement rapidement l'ensemble des accords avant le 15 octobre. Alors, pourquoi il a mis cette pression? Parce qu'encore une fois, lui, il ne veut pas du tout prolonger cette année de transition. Et surtout, il a mis une menace au bout, il a agité une menace, un chiffon rouge, Boris Johnson, il a dit que s'il n'y avait pas de conclusion des négociations avant le 15 octobre, il envisageait de ne plus appliquer l'accord qui a été trouvé en février 2020, enfin ratifié en février 2020, pour la sortie du Royaume-Uni. Donc, si vous voulez, c'est aussi pour ça que ça a envenimé les relations, c'est que Boris Johnson fait presque du chantage à Michel Barnier, au négociateur européen. Et puis, Michel Barnier, de manière un peu plus, j'allais dire, respectueuse, légitimiste, lui a dit que non, tout ce qui a été signé par le passé et ce qui a été ratifié en février 2020 doit être respecté et que il y a une période de transition. Cette période de transition, elle court jusqu'à la fin de l'année et donc c'est pas parce qu'il n'y avait rien qui allait être conclu et négocié définitivement avant le 15 octobre qu'il ne fallait pas respecter. Donc si vous voyez la relation s'est vraiment envenimée entre les deux acteurs. Et ce qui est aussi intéressant, Christophe, c'est que le négociateur du Royaume-Uni, David Frost, lui, il avait aussi dit que Londres ne comptait pas forcément accepter des clauses qui donneraient aux institutions européennes un contrôle. Alors, il avait parlé de la monnaie ou sur la façon d'organiser les choses. En d'autres termes, il remettait un peu en cause toutes les conditionnalités mises en avant par l'Union européenne en disant « Mais non, mais si on a signé un accord de Brexit, c'est pour ne plus du tout être lié à l'Union européenne et plus à aucune règle. » Alors, quand il mentionne ça, Christophe, on pense à deux choses. Hein. On pense évidemment au backstop irlandais, hein, on pense à cette frontière et à cette relation extrêmement compliquée Irlande-Irlande du Nord et les conséquences que ça peut avoir pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et puis la deuxième chose, c'est sur ce qu'on a appelé tout ce qui va être dumping fiscal, environnemental, etc., qui est une grande crainte aussi pour l'Union européenne. Et donc, si vous voulez, en plus de Boris Johnson qui presse Michel Barnier et David Frost qui lui a fait une sortie sur nous on va être complètement indépendant, il est hors de question qu'on se soumette à quelconque règle fixée par l'Union européenne. Vous voyez, c'est pour ça que c'est « it's very complicated » la relation.
Oui, non, c'est sûr que on ne peut plus compliquer cette relation. Allez, on va parler d'un autre sujet qui est vraiment au cœur de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. La Pologne, la Hongrie, l'état de droit, là aussi c'est compliqué.
Oui, Christophe, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait l'Europe n'est pas que tiraillée par le Brexit. Par le Covid, mais a aussi certaines luttes intestines, certaines problématiques internes. L'épisode qui a fait beaucoup parler de lui aussi en cette fin septembre, c'est la Commission européenne, Christophe, qui a accusé à la fois la Pologne et la Hongrie de manquement aux principes démocratiques fondamentaux. Alors vous allez me dire, c'est très bien, c'est une déclaration, c'est une condamnation de principe, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'Union européenne, même vis-à-vis de certains États membres. Mais ce qui change vraiment, Christophe, cette fois, c'est que la Commission et donc l'Union européenne a dit qu'elle envisageait de priver ces deux pays, donc la Pologne et la Hongrie, d'accès aux fonds européens s'ils ne respectaient pas certaines libertés, certains principes démocratiques fondamentaux, et notamment il parlait de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. Donc ça, Christophe, c'est nouveau. Enfin, c'est pas nouveau dans les textes, hein, ça existe depuis quelques temps, mais c'est nouveau au niveau de l'attitude de la Commission européenne de vraiment appuyer sur cet aspect-là et de le dire avec beaucoup de force et d'aplomb que certains États membres de l'Union européenne se verraient privés de ces dotations. Alors pourquoi c'est majeur, Christophe? Parce qu'on va bientôt négocier le budget pluriannuel de l'Union européenne et que, si vous voulez, on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros. Et donc, avec le plan de relance là qui avait été annoncé au mois de juin dernier. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment privé ces deux pays-là d'une manne financière énorme. Et donc, c'est ça qui a fait polémique là en cette fin du mois de septembre.
Et si on extrapole un peu ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Hongrie et de la Pologne en qu'est-ce qu'ils peuvent rétorquer? Il y a un droit de veto. C'est où les risques si vraiment l'Europe vient un petit peu avec cette emprise sur ces deux pays?
Alors, Christophe, je dirais qu'il y a trois types de risques. Il y a d'abord effectivement un risque institutionnel, c'est ce que vous avez mentionné. La Hongrie a déjà d'ailleurs menacé de bloquer le processus de ce budget avec un veto si le versement des fonds est conditionné. C'est donc, vous voyez, si l'Union européenne, la Commission européenne n'accepte pas ou en tout cas conditionne le versement des fonds au respect de ces principes-là, la Hongrie a déjà dit, bah voilà, moi je vais jouer le jeu de l'Union européenne, le jeu institutionnel, et je vais mettre mon droit de veto parce que j'accepte pas ce chantage. Ça, Christophe, si vous voulez, c'est le premier risque. Le deuxième risque, Christophe, j'allais dire, c'est un risque politique. On risque aussi de voir émerger encore plus de contestations au sein de ces pays-là et de voir émerger encore plus de mouvances d'extrême droite au sein de ces pays-là et un retour de régime encore moins démocratique. Donc ça, c'est un risque politique à la fois pour les pays, hein, pour la Hongrie, pour la Pologne, mais c'est aussi un risque évidemment démocratique parce qu'après chaque décision de l'Union européenne, eh ben, elle se fera, il faudra composer avec un régime encore plus autoritaire, un régime encore plus, j'allais dire, d'extrême droite ou de droite extrêmement dure quand il faudra trouver, quand il faudra se mettre autour de la table et trouver des compromis, etc. Donc ça, il y a le risque institutionnel. Il y a le risque politique et puis il y a le risque économique, Christophe. C'est que le budget, il sert à ce que l'Europe fonctionne. Hein. Surtout en temps de Covid, hein, avec ce budget extraordinaire qui avait été négocié avec acharnement par le président français Emmanuel Macron, c'est qu'il faut le voter, ce budget. Donc si le budget n'est pas voté, après, c'est du temps que vous perdez pour allouer des fonds. Alors pour allouer des fonds qui vont s'étaler sur plusieurs années, mais aussi pour allouer les fonds, comme vous le rappelez, par rapport au Covid, sur la relance économique. Donc, vous voyez, ça peut avoir aussi des conséquences sur la relance économique au sein des économies européennes. Donc, risque institutionnel, Christophe, risque politique et risque économique.
Ouais, non, c'est clair, ça va être affaire à suivre. Mais avant qu'on conclue ce podcast également, j'aimerais qu'on parle d'Emmanuel Macron et du rôle que l'Europe peut avoir pour Emmanuel Macron en 2022. Ça, je pense que c'est un sujet important parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron terminera son quinquennat sur une présidence de l'Union européenne. Mais à quel point aujourd'hui Emmanuel Macron peut se servir de l'Europe pour augmenter sa popularité et potentiellement jouer un jeu dans l'élection présidentielle en 2022?
Alors oui, Christophe, alors effectivement, c'est un moment qui est intéressant pour l'Europe parce qu'on est sous présidence allemande actuellement, c'est-à-dire au moment où on a ce plan de relance exceptionnel, ces 1 800 milliards d'euros, et puis on va finir, Emmanuel Macron va finir son mandat avec en prenant la présidence tournante de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022, donc dans un peu plus d'un an. Donc vous voyez, finalement, alors que on est dans un jeu à 28 moins 1 à 27, on retrouve encore dans des années charnières l'Allemagne et la France à la présidence tournante de l'Union européenne. Alors pour le président français, ça va avoir un rôle extrêmement important et structurant parce que il faut le rappeler, hein, le président français, il avait véritablement lors d'un de ses discours les plus connus, le discours de la Sorbonne en septembre 2017, il avait fait un discours fondateur, il avait rappelé le rôle de l'Europe, et donc c'est intéressant parce qu'il va d'une certaine façon finalement clore la boucle en prenant cette présidence tournante de l'Union européenne en janvier 2022. Moi, je dirais que, Christophe, que ce qui est intéressant, c'est que, et on l'avait dit plusieurs fois, sur la scène domestique, sur la scène intérieure, le président Macron, il est contesté, hein, ça, personne ne peut le nier. Le mouvement des Gilets jaunes en filigrane, l'instabilité même politique, hein, si vous voulez, et les échecs électoraux qui se sont succédés après les dernières législatives. Donc, il y a de la contestation sur la scène nationale. Par contre, Christophe, sur la scène internationale et même, j'allais dire, encore plus sur la scène européenne, il faut reconnaître une certaine réussite au président Macron, une certaine réussite dans la relance du couple franco-allemand qui avait un peu battu de l'aile, mais aussi sur des dossiers comme la taxation des GAFA, sur l'accord sur les travailleurs détachés, le projet de taxe carbone aux frontières. Il y a des réussites du président Macron sur la scène européenne, sur la scène internationale. Il y a une proactivité qui fait que il va pouvoir en fait utiliser les succès sur la scène européenne pour faire campagne dans une élection nationale. Alors après, c'est toujours à double tranchant, Christophe, si vous voulez. C'est-à-dire que finalement, on peut toujours lui reprocher que c'est très bien d'agir sur des dossiers européens, des dossiers internationaux, mais ce qu'on veut, c'est que des fermetures d'usines n'arrivent pas en France, c'est que les gens trouvent un travail en France, etc. Donc ça, on peut pas lire dans une boule de cristal. Je suis incapable de vous dire maintenant comment ça va être valorisé, mais si vous voulez, l'enjeu pour le président français, c'est comment le bilan positif sur la scène européenne et sur la scène internationale va pouvoir faire tache d'huile et va pouvoir être valorisé pour lui permettre d'enclencher une dynamique de campagne, pour lui permettre de montrer certaines réussites. Alors, c'est encore loin, 2022, mais j'allais dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas, hein, la nomination du nouveau secrétaire d'État, Clément Beaune, un de ses fidèles, un de ses proches, au secrétaire d'État aux affaires européennes. Voilà, il commence à se mettre en ordre de bataille aussi pour, excusez-moi l'expression, mais pour utiliser l'Europe comme un argument de campagne pour les élections présidentielles de 2022.
Oui, parce que lui seul peut le faire. Aucun autre des autres candidats ne puisse le faire. Ce sera plutôt... Est-ce qu'on peut se diriger vers une élection de type pour l'Europe et contre l'Europe? Est-ce que ça peut être, à votre avis, je sais qu'on est encore très loin, mais ça peut être une des questions par rapport à cette élection?
La question, Christophe, elle est très simple. C'est est-ce que vous faites de l'Europe... un échelon pertinent même pour mettre en place des politiques au niveau national, hein, c'est-à-dire que est-ce que vous arrivez à faire assez la pédagogie de l'Europe pour montrer aux citoyens français que finalement les décisions importantes elles se prennent aussi en Europe et elles ont des conséquences sur le quotidien des Français. Est-ce que vous prenez ce pari-là, est-ce que vous arrivez à faire assez d'efforts pour expliquer cela, est-ce que vous arrivez à rapprocher l'Europe des gens? Ou est-ce que finalement, vous faites comme Marine Le Pen, hein, pour prendre un exemple extrême, vous faites de l'Europe le bouc émissaire et vous construisez votre programme politique national en confrontation avec ce qu'il fait avec l'Europe. Ce qu'on peut pas reprocher à Emmanuel Macron, Christophe, et ce qu'on peut pas reprocher d'ailleurs à, j'allais dire au centre de manière générale en France, c'est que c'est un parti profondément pro-européen. Et Emmanuel Macron est encore dans cette ligne-là, c'est-à-dire que c'est vraiment montrer en quoi l'Europe est une réussite, est un atout pour la France. Donc, j'allais dire, c'est à Emmanuel Macron d'aller encore un cran au-dessus et de montrer non seulement pourquoi c'est un atout pour la France, mais surtout pourquoi ses succès personnels à lui au sein de l'Europe et sur la scène européenne vont pouvoir être de bons arguments pour sa campagne nationale en 2022. Donc, vous voyez, il a 2 ans pour véritablement... rajouter les quelques tirets manquants pour que les Français en fait fassent le lien, si vous voulez. Moi, il y a une phrase que j'aime, que je trouve assez pertinente, qui n'est pas à propos de l'Europe, qui est à propos de la mondialisation, c'est que la mondialisation, on n'a pas à être pour, on n'a pas à être contre, la mondialisation, elle est, c'est un fait. Vous voyez, c'est comme ça, c'est le paradigme dans lequel les sociétés aujourd'hui évoluent. Et ben, je pense que pour Emmanuel Macron, avec l'Europe, ça doit être la même chose. L'idée pas de montrer que l'Europe elle est bonne, et pas de montrer que l'Europe elle est mauvaise. L'idée est de montrer que la construction européenne c'est un fait, c'est une construction politique maintenant qui est viable, qui existe depuis près de 70 ans si je me réfère au traité de Rome. Et donc c'est de montrer comment ce fait-là, eh ben, il a des conséquences positives dans la vie des gens et dans le quotidien des Français.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.